éphéméride du 20 mai avec vous, André Lacombe. Alors, vous débutez avec les prénoms du jour.
Deux prénoms aujourd'hui. D'abord, les Lydie et Lydia, en l'honneur de Lydie de Philippe, négociante grecque d'origine juive. Négociante en pourpre, c'était une étoffe très populaire à cette époque-là d'un rouge vif. Et elle était aussi disciple de l'apôtre Paul en Macédoine au 1er siècle. Donc, c'est là qu'elle a vécu. On fête aussi les Bernardins en l'honneur de Saint Bernardin de Sienne.
C'est un prénom, ça, Bernardin?
Oui.
Ah.
Eh oui.
Je connais quelqu'un qui porte le nom de famille, Bernardin.
Oui, mais c'est aussi un prénom. Surnommé l'apôtre de l'Italie pour ses efforts en faveur du retour de la foi catholique dans son pays au 15e siècle.
Alors, allez-y maintenant avec les thèmes des deux journées mondiales. Vous en avez déjà mentionné une, la Journée mondiale des abeilles.
Tout à fait. Elle a été décrétée par l'ONU le 18 octobre 2017. Et la date du 20 mai, elle correspond à l'anniversaire de naissance d'un apiculteur célèbre qui était le Slovène Anton Janša en 1734. Alors, pourquoi lui? Pourquoi M. Janša? C'est qu'il a découvert que la fécondation de la reine des abeilles avait lieu en vol à l'extérieur de la ruche. D'original.
Oui.
Et l'objectif de cette journée, on s'en doute un peu, c'est de reconnaître le rôle des abeilles et d'autres pollinisateurs pour l'écosystème. On sait à quel point elles sont importantes. Hein? Il y a plusieurs cultures essentielles à notre alimentation qui dépendent des insectes pollinisateurs et beaucoup, beaucoup des abeilles. On leur doit beaucoup.
Il faut les
à
protéger.
À ces petits insectes, oui, tout à fait. Et c'est aussi la journée mondiale de la métrologie.
Métrologie?
Qui n'est pas la science du métro, mais la science de la mesure. Qui célèbre le système international d'unité, ou si vous préférez, le système métrique.
Ah oui.
Et qui fait la promotion de meilleures mesures. Semble-t-il que là aussi, il y a toujours moyen de s'améliorer. Alors, pourquoi le 20 mai? Bien, parce que c'est l'anniversaire de la signature de la Convention du maître à Paris en 1875 par 17 États.
Et vous poursuivez avec quelques faits marquants qui sont arrivés un 20 mai.
En 1851, la sortie des premiers timbres postes au Canada par les provinces unies du Haut et du Bas-Canada, qui sont devenues plus tard l'Ontario et le Québec, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick, qui suivent donc l'exemple de l'Angleterre qui avait émis les siens en 1840. Et donc, à l'époque, ce sont les provinces qui émettaient les timbres postes, ce n'était pas le gouvernement central. En 1873, les Américains Levi Strauss et Jacob Davis reçoivent un brevet pour leurs jeans avec des rivets de cuivre au coin des poches.
Ah oui!
Alors, ça existe toujours sur
les jeans Levi's.
Absolument,
oui.
On a toujours les rivets au coin des poches.
Oui, Levi's, est-ce que ça a rapport avec Davis?
Jacob Davis était son associé, donc il y a juste le nom Levi's qui est resté au fil du temps.
Oui, mais ça finit quand même V-I-S, mais je...
Non, Levi's, c'est comme...
Oui, avec un apostrophe.
Avec un apostrophe, ouais. Mais 1873, donc c'est pas d'hier, les jeans.
Ça demeure des classiques, là. On n'a pas honte de porter des Levi's.
Ça a traversé le temps, absolument. En 1891, première démonstration publique du kinétoscope dans le laboratoire de Thomas Edison... C'est le plus ancien dispositif de l'histoire du cinéma destiné à, puis là je vous le dis tel que c'était dit à l'époque, visualiser une œuvre photographique donnant l'illusion du mouvement.
Ah.
C'est vraiment l'ancêtre du cinématographe des Frères Lumière qui lui est sorti 4 ans plus tard, en 1895, et qui a permis cette fois-là, avec les Frères Lumière, de projeter un film sur un écran. Le kinétoscope, lui, bien, il permettait de voir le film seulement une personne à la fois à travers une petite lentille.
Ah oui.
C'était vraiment rudimentaire, là. Mais c'était les premiers pas,
le
premiers
balbutiements. Le kinétoscope.
Oui, kinétoscope. En 1902, Cuba obtient son indépendance des États-Unis et c'est un certain Tomas Estrada Palma qui devient le premier président, mais dans les faits, économiquement et financièrement, les Américains gardent vraiment le pouvoir jusqu'à l'arrivée de Fidel Castro en 1959, où là, la vraie révolution a lieu, comme on le sait. En 1927, Charles Lindbergh décolle de New York pour Paris à bord de son avion, le Spirit of St. Louis. Et c'est le premier à avoir traversé l'Atlantique en solo et sans escale. Vraiment un exploit pour l'époque.
Et puis un autre vol solo à souligner qu'on connaît moins.
Oui, 5 ans plus tard, la première femme, Amelia Earhart, il y a eu un film d'ailleurs il y a quelques années, très intéressant, qui relate cet exploit-là. Ça a été la première femme donc à traverser l'Atlantique en solo, de son côté, entre Terre-Neuve et l'Irlande.
Bon voyage!
Absolument. En 1946, l'entraîneur Lou Hammond et l'homme d'affaires Léo Dandurand créent le club de football Les Alouettes.
En 1946, donc ça va faire bientôt 80 ans en 2026?
79 ans, 80 ans en 2026, c'est bien ça. Vous êtes bonne en calcul, Hélène.
Ah, t'es effrayant.
Hein? En 1954, lancement de la chanson « Rock Around the Clock » qui marque le début d'un nouveau genre musical, le rock and roll. En 1960, la Palme d'or du 13e Festival de Cannes est remise à Federico Fellini pour la Dolce Vita. Mmh. Il faut rappeler que c'est vraiment une révolution pour l'époque, ce film-là, parce qu'il a renoncé à l'intrigue classique, là. Et c'est plutôt une mosaïque d'épisodes sans aucun autre lien qu'un personnage qui est là comme spectateur, qui assiste à ces épisodes-là, nul autre que Marcello Mastroianni.
Marcello.
Et le film est très mal accueilli à l'époque, semble-t-il, hué par le public cannois, condamné par le Vatican, ça, c'est pas une surprise. Et la scène où Anita Ekberg se baigne dans la fontaine de Trevi fait partie des séquences les plus célèbres du cinéma.
Ah oui, on s'en souvient et on s'en souviendra. En 1977, un 20 mai...
Dernier départ du voyage du train mythique Orient Express entre Paris et Istanbul.
Ah, j'aimerais prendre ce train.
Ah, ça devait être magnifique. Et en 1980, premier référendum sur la souveraineté du Québec où le non l'emporte, comme on le sait, avec 59 % des suffrages.
Donc, ça fait 45 ans aujourd'hui.
Déjà, incroyable.
Et vous terminez votre chronique avec quelques dates anniversaires.
Oui, du côté des anniversaires de naissance, en 1743, François-Dominique Toussaint Louverture, le dirigeant le plus influent de la Révolution haïtienne, devenu par la suite gouverneur de Saint-Domingue, c'était le nom d'Haïti à cette époque-là, et ça demeure, Toussaint Louverture, une figure très importante pour la communauté haïtienne encore aujourd'hui. Il y a un parc, d'ailleurs, qui a été nommé en son honneur sur Maisonneuve, pas loin du quartier des spectacles.
Parc Toussaint Louverture?
Parc Toussaint Louverture. En 1799, Honoré de Balzac, ou simplement Balzac, très célèbre et prolifique romancier et dramaturge français, plus de 90 romans et nouvelles, une centaine de contes, des romans jeunesse, bref, et j'en passe. En 1861, Émile Berliner, inventeur du microphone et du gramophone, il fonde sa propre compagnie à Montréal, laquelle va devenir plus tard RCA Victor. Vous savez le logo avec le chien qui écoute le gramophone?
Oui.
Mais c'est de lui, ça.
Ah,
c'est devenu une icône.
De M. Berliner.
M. Émile Berliner. En 1920, Jean-Maurice Bailly, analyste sportif au service des sports de Radio-Canada, co-animateur des Joyeux Troubadours, entrez, voyons. Et animateur de À toi, Jean-Maurice.
Je me souviens, on arrivait de l'école, on allait dîner, on avait ce privilège-là, en tout cas, chez nous.
Oui, absolument.
On allait dîner à la maison, ça sentait la soupe et ma mère écoutait les Joyeux Troubadours.
On a vécu la même enfance.
On est des enfants des années 60.
Des copies carbone.
Oui.
En 1940, le journaliste Michel Vastel, qui a collaboré avec de nombreux médias écrits et parlés. En 1942, le diplomate Raymond Chrétien, frère de Jean Chrétien, 83 ans aujourd'hui.
Bonne fête, M. Chrétien.
Bonne fête.
Je ne sais pas si Jean va y faire un gâteau.
Peut-être. En 1946, Cher, de son vrai nom, Shirilyn Sarkissian, connue entre autres pour le duo Sonny and Cher, formé avec son mari Sonny Bono, 79 ans aujourd'hui.
Entre autres, mais elle a fait tellement de choses.
Des
chansons, des albums, des films.
Absolument.
Et Cher qui a l'air d'une éternelle jeunesse. Là.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi.
Avec l'aide de son chirurgien.
Donc, 80 ans, elle aussi.
79.
L'année prochaine.
L'année prochaine.
Ouais. Et en 2026.
Ben oui, vous êtes en avance, Hélène. Et en 1949, le cinéaste Robert Morin, 76 ans aujourd'hui.
Ah oui. Ouais, tout le monde vieillit, on dirait.
Absolument.
Hein? Et puis maintenant, les morts, les décès.
En 1506, c'est pas hier matin, ça, Christophe Colomb, à 54 ans. Il faut croire qu'à l'époque, 54 ans, c'était quand même un âge respectable, 1506.
Et de nos jours, c'est complètement jeune.
C'est très jeune. En 1873, Sir Georges-Étienne Cartier, un des pères de la Confédération. Et hier, on célébrait le jour des Patriotes. Mm-hmm. J'ai été surpris de lire ça. Lors de la rébellion de 1837, Georges-Étienne Cartier a combattu avec Louis-Joseph Papineau. Il s'est par la suite exilé au Vermont. Et vous voyez, 36 ans plus tard, bien, il faisait partie, en fait, non pas 30 ans plus tard, en 1867, il faisait partie des pères de la Confédération.
Ouais.
En 1896, Clara Schumann épouse du compositeur Robert Schumann, et elle aussi, célèbre musicienne et compositrice. Elle était moins connue, probablement parce que c'était une femme aussi, mais c'était une grande musicienne,
ouais,
Clara Schumann.
Oui, la plupart Schumann. Du temps, c'était ça. Hein? Ouais, les hommes étaient mis de l'avant, puis absolument. Les femmes derrière. Puis souvent, les femmes avaient plus de talent que les hommes. Mais ici, c'est pas la réalité, parce que Robert Schumann
avait
un grand compositeur, un des meilleurs compositeurs absolument. De musique romantique qui fait pleurer.
En 2011, beaucoup plus tard, Risset Barrier, chanteur et fantaisiste.
Moi, ça me dit pas. Ben, ça me dit non? quelque chose, ce nom-là, mais.
Isabelle, voilà le printemps.
OK, non, il faisait pas partie. Les compagnons de la chanson, non. Risset Barrier.
Peut-être.
Je sais pas, là, je vais pas dire n'importe quoi.
Et en 2012, on termine avec lui, Robin Gibb, célèbre chanteur des Bee Gees, connu pour sa voix haut perché.
Oui.
Oui.
C'est toujours bon, les Bee Gees.
Voilà.
Est-ce que vous avez une chanson préférée des Bee Gees?
Oh mon Dieu, il y en avait eu plusieurs. Night Fever, Staying Alive, Tragedy, etc.
Il y en a plein, il y en a plein.
Il y en a plein.
Merci. André,
merci
c'est quoi
beaucoup.
Ça?
La Dolce Vita.
Federico Fellini, Marcello et Anita. On se retrouve dans 2 semaines?
À dans 2 semaines.
À bientôt.
Bye-bye.